en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Maladies neurodégénératives ou psychiatriques, migraines ou problèmes de mémoire, on estime que 15 millions de Français sont actuellement touchés par une pathologie du cerveau. La France, leader européen dans ce domaine de la recherche, ne doit cependant pas se reposer sur ses lauriers, sous peine que la grande machine de la recherche française se grippe. Et pour contrer ce ralentissement et miser sur une efficacité des moyens mis en œuvre, les professionnels de santé français prônent dans le domaine des neurosciences une réorganisation de la recherche avec de meilleures passerelles entre les chercheurs et les cliniciens d'une part, le public et le privé d'autre part. Canal Académie retransmet une partie du colloque Priorité cerveau qui s'est déroulé le 16 septembre 2010 au Collège de France. Retrouvez dans une première partie André Niollon, président de la Société des neurosciences, et Bernard Laurent, président de la Société française de neurologie. Tous deux nous livrent un état des lieux de la recherche dans ce domaine. Et puis dans une deuxième partie, Étienne Hirsch, président honoraire de la Société des neurosciences, et Olivier Lioncan, président honoraire également, mais de la Société française de neurologie, nous livrent les 10 priorités pour les années à venir pour une recherche incisive. Tout de suite, André Niollon.
Quel est l'état de la recherche dans ce domaine, dans notre pays? Eh bien, comme vous le constatez, la recherche sur le cerveau, c'est 20% dans ce pays de la recherche sur le vivant. C'est tout à fait considérable. Ça représente globalement 3000 chercheurs, près de 500 équipes. Et ce que, là encore, c'est un point sur lequel peu sont informés, nous sommes le premier des 29 pays de l'Union européenne dans le domaine de la recherche sur le cerveau. Alors on pourrait discuter, si nous avions le temps, de la raison pour laquelle nous sommes les premiers, mais simplement, il y a une tradition sur la recherche sur le cerveau dans ce pays, et par ailleurs, il y a une tradition de l'école de neurologie qui, depuis plus de 100 ans, eh bien, a ramifié pratiquement tout l'hémisphère, puisque les tenants de l'école française sont véritablement répartis sur l'ensemble des pays de la planète. Alors, il y a trois communautés qui sont parfaitement interpénétrées, même si on peut faire mieux, des chercheurs biologistes, des chercheurs cliniciens, et bien entendu, l'industrie pharmaceutique et les start-up, maintenant, font partie également des acteurs de cette recherche. L'abord de la complexité du cerveau, 100 milliards de neurones, 1000 milliards de cellules, dont 9 dixièmes ne sont pas des neurones, sont des cellules gliales, 10 000 synapses par neurone en moyenne. Tout cela, bien sûr, c'est pour frapper les esprits, puisqu'il y a des approximations dans les chiffres selon les écoles, mais globalement, ça nous amène à considérer que pénétrer cette matière, essayer de voir comment elle est organisée, comment elle fonctionne, eh bien, c'est quand même un challenge qui n'est pas à la portée de tout le monde, et nous avons beaucoup, beaucoup de questionnements au regard de ces organisations. L'organisation est un réseau de neurones. Les cellules sont excitables, elles véhiculent des signaux nerveux. Vous en avez quelques illustrations. Et ces signaux nerveux, ils sont porteurs d'une information qui est l'information neuronale. Et cette information va se propager, bien sûr, dans des réseaux nerveux pour pouvoir, in fine, par exemple, faire bouger nos muscles. Ces neurones sont fragiles. Ils sont grands consommateurs d'énergie, grands consommateurs d'oxygène, 20% de l'oxygène respiré, alors même que le cerveau ne représente que 2% du poids du corps. Et fondamentalement, même s'il y a de ce côté-là un certain nombre de révisions de concepts, les neurones sont de nature post-mitotique et ils ne se renouvellent pas après la naissance. Le déterminisme génétique de l'organisation anatomique et fonctionnelle est sous la pression de l'environnement, non seulement pendant le développement, mais également tout au long de la vie, ce qu'on appelle la théorie constructiviste. Et bien sûr, ceci fait intervenir des mécanismes qui sont des mécanismes épigénétiques. Alors, le domaine des neurosciences se traduit pas encore par quelques autres spécificités. C'est donc un immense champ d'investigation, vous l'avez vu ce matin, de la génétique moléculaire à la psychopathologie. Et donc, chacun des acteurs de cette recherche, évidemment, est concerné par un petit bout, mais ne peut prétendre à couvrir l'ensemble de ce champ. Les neurosciences contribuent à l'étude des maladies du cerveau, à proposer des solutions thérapeutiques innovantes, pas autant qu'on le souhaiterait, mais in fine, c'est dans cette direction que nous allons. Et bien entendu, et c'est important, on ne peut pas réduire les recherches en neurosciences à à cet aspect thérapeutique. Il y a aussi tout un aspect de la recherche qui est plus cognitif, qui cherche bien sûr à comprendre le cerveau de l'homme dans sa spécificité, c'est-à-dire à l'abord de ses fonctions cognitives et sociales. Merci. Et donc aborder l'ensemble des fonctions du système nerveux. Alors, pour terminer cette première partie, et je passerai dans un instant la parole au professeur Bernard Laurent, les quelques grands domaines dans lesquels nous agissons. Alors, schématiquement, il y a trois grands domaines. Il y a le domaine de la sensorimotricité, qui nous permet la vie de relation dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Ceci comprend, bien sûr, une préoccupation dirigée vers les organes des sens, qui sont nos véritables capteurs pour pouvoir percevoir et ensuite agir, bien entendu. Et dans ce domaine-là, on a évidemment des préoccupations du côté des douleurs. Le deuxième grand domaine, c'est celui de ce qu'on appelle le domaine limbique, c'est-à-dire le domaine de nos émotions, de nos comportements motivés. Et donc, dans ce domaine-là, c'est aussi le domaine du contrôle de l'humeur. C'est un domaine extrêmement important. On a tous écouté Florence Thibault nous dire combien cette recherche était sans doute sous-développée dans notre pays à cet égard, et ça fera sans doute partie des recommandations tout à l'heure. Et enfin, le troisième grand domaine dans lequel nous évoluons, c'est le domaine des sciences cognitives, c'est-à-dire celui qui nous permet de pouvoir communiquer, d'avoir des fonctions sociales, mais aussi d'avoir des particularités de pouvoir raisonner sur le plan abstrait. C'est ce qu'on appelle finalement l'esprit, la conscience. Alors, pour l'ensemble de ces domaines, il y a toute une série de pathologies associées. C'est Bernard Laurent qui va vous les décrire dans un instant. Et donc, ces pathologies, bien entendu, relèvent des grandes disciplines neurologiques et psychiatriques que vous connaissez, et elles ont des origines tout à fait particulières.
Oui, bonjour. Donc, le neurologue que je suis donc, est confronté à ces pathologies qu'on classe classiquement en pathologies dégénératives, hein, dans le plus connu, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, toute la pathologie tumorale et vasculaire, les pathologies inflammatoires avec évidemment la sclérose en plaques, et puis tout ce qui est un peu à la frontière des troubles du comportement, de la psychiatrie, qui est un domaine tout à fait en pleine expansion actuellement avec la neuropsychologie. Mais il ne faut pas oublier que le neurologue libéral est confronté à des plaintes quotidiennes. 30% de la population se plaint de troubles du sommeil, donc toute la recherche dans ce domaine, y compris pharmacologique, est très importante. 70% des gens de ma génération, à partir de 60 ans, commencent à se plaindre de troubles de la mémoire, et la médiatisation de l'Alzheimer fait que nos consultations de mémoire sont encombrées de gens qui s'inquiètent de la première perte d'objets. 17% de la population est migraineuse, et on avait fait une enquête sur Sofres également sur la population générale française, hein, 20 000 sujets interviewés, 30% se plaignent de douleurs chroniques depuis 6 mois et prennent régulièrement des médicaments. Donc cette pathologie quotidienne est tout à fait respectable et doit engendrer autant de recherches que les pathologies classiques de la neurologie. Alors actuellement, c'est vrai que les neurologues se sont un peu satellisés dans des surspécialités qui sont représentées ici, mais c'est vraiment l'esprit de ce que l'on essaye de faire passer aujourd'hui, c'est que le cœur des progrès, c'est la compréhension des mécanismes. Et la compréhension des mécanismes, c'est des connaissances de base dans les neurosciences. Et aucun de ces domaines n'échappe à une compétence de la neurophysiologie, de la NAPAT, de l'anatomie pathologique, de la biochimie ou de la génétique. Une autre convergence qui est importante entre la neurologie et la psychiatrie, chacun se rappelle de la division un peu idéologique de ces deux disciplines en 68, c'est que dans toutes ces pathologies, il y a évidemment des répercussions psychologiques et le champ, l'interaction entre les deux est permanent, et toute la neuropsychologie est par exemple une interface fondamentale entre les pathologies neurologiques et la pathologie psychiatrique. Comprendre les maladies du cerveau, c'est également comprendre son propre fonctionnement mental, comprendre son interaction sociale. On voit des domaines qui émergent, par exemple, comme la neuroéconomie, hein, qu'est-ce qui fait que les prises de décision, les anticipations sont quelquefois dans le domaine aussi catastrophique? Est-ce que les neuropsychologues, est-ce que les neuroscientifiques peuvent donner des réponses à ce type de questions?
Alors, je reprends la parole pour vous parler un petit peu de notre démarche dans le domaine de la recherche sur le cerveau. En fait, j'ai retenu trois principes. On pourrait en trouver d'autres, mais trois principaux, en tout cas, ce sont ceux qui m'animent. Le premier principe, c'est la pluridisciplinarité. Il est très clair que la démarche est une démarche de biologie intégrative et donc on a évidemment une association naturelle entre biologistes et médecins, mais au-delà, bien entendu, des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens et aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, des chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales se préoccupent et contribuent à cette recherche. Le deuxième point, c'est que cette approche, elle est multidimensionnelle. Et donc, si l'on se souvient que le cerveau est organisé en différents niveaux, de la molécule au comportement, eh bien, il faut pouvoir avoir cette approche qui permet d'intégrer, si vous voulez, les travaux et les résultats que nous obtenons à ces différents niveaux d'analyse. Et donc, cette approche multidimensionnelle, multi-échelle, est fondamentale pour comprendre le tout. Il s'agit de comprendre le neurone, mais il faut resituer ce neurone dans les réseaux nerveux et dans les comportements. Et enfin, la démarche est dite translationnelle. Elle est exemplaire dans le domaine des neurosciences. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres domaines dans lesquels ce soit si avancé, mais cette démarche vise à réduire, bien sûr, la distance entre le laboratoire et le lit du malade. Alors, les connaissances que nous accumulons, puisque, n'en doutez pas, il y a des progrès qui sont faits sur ces connaissances, eh bien, nous amènent à de nouvelles préoccupations, et en particulier dans le domaine de l'éthique. La possibilité que nous avons aujourd'hui d'agir sur le cerveau, que ce soit par des lésions, des stimulations, des substances psychotropes, des tentatives de conditionnement, etc., confronte les neurosciences à de nouvelles questions. J'en cite quelques-unes ici, ce n'est pas exhaustif. La possibilité d'accroître artificiellement les capacités du cerveau, c'est le dopage schématiquement. La capacité d'induire des comportements sous l'influence d'addiction, par exemple. Une certaine déshumanisation de la médecine, on en a parlé le professeur Guérochomède en a parlé tout à l'heure, face à la très haute technicité, un risque de déculpabilisation dans le domaine de la justice, si on fait le lien avec une génétique des comportements, donc c'est un domaine à risque, la neuroimagerie pouvant être utilisée comme détecteur de mensonges de nouvelle génération, la dérive vers une médecine prédictive. Si on parle, on a évoqué ça et on voit ça régulièrement, le gène de la schizophrénie, le gène de l'autisme, etc. Et bref, il y a des dérives sur lesquelles nous devons être extrêmement vigilants. Et en tout cas, la communauté est parfaitement consciente de ces dérives et a mis des garde-fous. Enfin, un mot sur comment est-ce qu'on fait, finalement, pour étudier le cerveau. Alors, conventionnellement, il y a des approches qui sont bien connues, anatomiques, neurophysiologiques, pharmacologiques, du domaine de la biochimie, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de la génétique, etc. Bref, on a tout un panel de spécialités qui font que chacun aborde le cerveau avec des outils et des clés et qui sont les siennes. En clinique, vous avez évidemment toute une série d'approches qui sont extrêmement développées, l'utilisation de nouvelles analyses biologiques, d'anatomopathologie, d'histologie, de pharmacologie clinique, de neuropsychologie, de comportement et d'imagerie. Et puis, dans la période récente, de nouveaux outils, bien sûr, de nouvelles technologies particulièrement résolutives sont apparues et que nous utilisons. Elles sont aussi, n'en doutez pas, extrêmement coûteuses. L'imagerie cérébrale, bien entendu, et Bernard Laurent va vous donner des illustrations dans ce domaine dans un instant, mais aussi en imagerie cellulaire, en génétique fonctionnelle, dans le domaine de la modélisation, des neurosciences computationnelles. Il y a aujourd'hui une montée en puissance des nanotechnologies devant lesquelles nous sommes confrontés, et donc nous devons réagir. Alors, dans la partie qui va suivre, Bernard Laurent va illustrer quelques-unes des avancées qui sont les nôtres dans le domaine donc, de la neurologie particulièrement.
J'ai choisi d'illustrer quelques exemples tout récents qui montrent à quel point l'interaction entre les chercheurs et les cliniciens est importante. Par exemple, une des questions qui est très, très, souvent posée, sommes-nous égaux devant la douleur? Est-ce qu'il y a des mécanismes biologiques qui font qu'on a des sensibilités différentes? Et la question, par exemple, est posée très crûment avec la recrudescence des fibromyalgies, le fait que les fibromyalgies sont très féminines. Est-ce qu'il faut juger ça avec une approche psychologique ou avec une approche biologique? Et alors là, il y a un très beau papier récent qui montre la méthodologie. La méthodologie, ça a été de construire chez l'animal des douleurs qui ressemblent à celles de l'homme. Donc on a fait des rats diabétiques, on a fait des rats avec des neuropathies liées à la chimiothérapie. Ensuite, sur ces animaux, on a sélectionné des populations qui souffraient davantage que d'autres, sur des critères évidemment comportementaux. On a isolé dans ces populations qui souffraient des génotypes particuliers, des phénotypes particuliers, et en particulier on s'est intéressé à un canal potassique qui a été détecté chez ces animaux les plus sensibles à la douleur. Et ensuite, pour montrer la pertinence, et la translation s'est faite dans l'autre sens vers l'homme, on a étudié des populations douloureuses. Donc il y a des populations de patients opérés de canal lombaire avec des sciatiques chroniques, des populations ayant des douleurs d'amputation, et puis la réactivité à la douleur de sujets normaux. Et on a pu montrer que ce génotype découvert chez l'animal était également pertinent chez l'homme et qu'il y avait donc des différences en fonction de la présence de ce canal potassique particulier. Donc, au-delà de la donnée scientifique, ça montre bien, si vous voulez, à la fois l'intelligence, la complexité, la durée de ce type d'étude pour arriver à un résultat qui est très important. Deuxième exemple aussi, évidemment, quand on parle d'audition, on pense au RL, mais tous les organes sensoriels sont évidemment reliés au cerveau et on est très intéressé aussi de la partie réception cérébrale de l'audition. Par exemple, dans la surdité, un certain nombre de surdités sont liées à des troubles de la compréhension de la parole qui est dégradée par perte du codage temporel de la parole. C'est donc un problème beaucoup plus cérébral qu'un problème d'oreille. L'analyse corticale des sons est déficiente chez 5% des enfants scolaires. Et actuellement, par exemple, il y a des utilisations de cette partie du cerveau qui reçoit la parole. Par exemple, on peut très bien faire de la stimulation magnétique répétitive au niveau des zones de Hecht, dans certains cas d'hallucinations auditives, voire même d'acouphènes invalidants. Une des recherches tout à fait fascinantes en termes de plasticité cérébrale, c'est de savoir comment le cerveau intègre les implants cochléaires. On convertit chez des surdités congénitales les sons de l'environnement en données électriques, on stimule le nerf auditif et le cerveau doit se dépatouiller de ces stimulations auditives pour aller jusqu'à la compréhension. Et cette compréhension qui s'acquiert progressivement montre à quel point on peut suppléer évidemment un déficit sensoriel qui est extrêmement invalidant, mais aussi à quel point le cerveau est capable de s'adapter à ce genre de situation. La maladie de Parkinson est un exemple tout à fait très souvent cité par les neurologues parce que c'est vraiment la première pathologie dégénérative où on a trouvé un traitement dont on est actuellement à 40 ans de la découverte de la DOPA. Et c'est aussi une maladie qui est un prototype de protéinopathie avec une découverte française, grenobloise, qui est maintenant mondialement connue et utilisée, qui est la stimulation profonde du noyau sous-thalamique. Donc c'est vraiment une maladie modèle. Et ce qui est intéressant du Parkinson, c'est que à chaque fois qu'on fait un progrès, le premier progrès, évidemment, ça a été la découverte de la DOPA. On bute sur de nouvelles questions. Une nouvelle question, c'était qu'après une phase de lune de miel, de bonne efficacité du produit, on arrivait à des situations on-off, avec soit des mouvements anormaux, soit le retour de la pathologie, et que la phase de quiétude pharmacologique était modeste. À ce moment-là, la neurostimulation du noyau sous-thalamique a apporté une réponse tout à fait convaincante. Et puis, actuellement, on est confronté à toute une sémiologie du Parkinson, qui est souvent très tardive, mais qui n'est pas sensible à la DOPA. Et d'autres stimulations profondes sont proposées, comme la stimulation du noyau pédiculopompin, pour des signes qui ne sont pas sensibles à la DOPA. Et une des questions qu'on peut poser à propos du Parkinson, c'est finalement pourquoi si peu de nouveautés du côté des médicaments, les progrès récents étant plus du côté de la stimulation profonde. C'est probablement, et ça sera abordé tout à l'heure par André, c'est probablement la complexité des processus dégénératifs, l'étendue de ces processus qui fait qu'un seul neuromédiateur ne peut pas répondre à la question. Voilà par exemple aussi un exemple d'étude qui est tout récent et qui est tout à fait fascinant comme type de construction. Le Gilles de la Tourette, chacun connaît, hein, c'est cette maladie extrêmement invalidante avec des tics, avec des vocalisations. Dès qu'il y a un Gilles de la Tourette dans un quartier, tout le quartier est au courant. Donc une étude de liaison génétique sur un des chromosomes, le chromosome 15, a été faite sur une très grande population sur deux générations. Cette liaison, enfin, le séquençage de toutes les régions codantes a été fait, donc énorme travail des généticiens. On trouve la mutation ponctuelle, on trouve le codon qui semble impliqué, et à quoi sert ce codon ? Et ça débouche sur l'histidine décarboxylase, donc un métabolisme particulier. À ce moment-là, on cherche la mutation sur des chromosomes contrôle de la maladie, chez des patients témoins et chez des contrôles. Et une fois qu'on a trouvé ce codon, on fabrique des souris KO pour le gène en question et on déclenche chez la souris une maladie qui a des points communs avec exagération des réactions locomotrices, hypersensibilité, etc. Et donc, par cette espèce de passage de l'homme à l'animal, on arrive à mettre en exergue le rôle d'un système de neuromédiateurs et peut-être éventuellement une possibilité thérapeutique. Alors ça, évidemment, c'est des travaux qui sont considérables en durée et en amplitude financière. Autre exemple, par exemple, voilà la zone cruciale du début de la maladie d'Alzheimer qui est l'hippocampe. On connaît tous les neuroscientifiques connaissent l'hippocampe. Et en parallèle, si vous voulez, on peut à la fois cultiver ces neurones NMDA de l'hippocampe, savoir quelle est leur susceptibilité au vieillissement, au processus oxydatif. On s'intéresse évidemment beaucoup aussi à l'hippocampe de l'homme. Et là, on voit les progrès de l'imagerie dans une panne de mémoire que connaissent tous les neurologues, qui est l'ictus amnésique. On va pouvoir trouver chez des patients qui sont vus à 48 heures, des petites modifications IRM très subtiles au niveau des régions hippocampiques. Donc on est sans arrêt dans ce parcours du neurone à l'histologie animale et à l'imagerie humaine. Et dans un domaine qu'on connaît parce que c'est notre groupe qui travaille là-dessus, par exemple en douleur, c'est un peu pour vous montrer comment les protocoles se complexifient et se posent des questions nouvelles. Première chose qu'on a commencé à faire, c'est d'essayer de savoir où le cerveau réagissait lorsqu'on lui faisait une stimulation douloureuse. Ensuite, on s'est dit, est-ce que lorsqu'on imagine une douleur, c'est les mêmes zones cérébrales qui se mettent en jeu ? Est-ce que lorsqu'on vous suggère en hypnose une douleur, ce sont les mêmes régions ? Et on s'aperçoit qu'évidemment, il y a un énorme regroupement. C'est-à-dire que le cerveau est vraiment une machine à faire de l'imagerie mentale, à se rappeler des choses. Ensuite, on s'est intéressé à tous les systèmes qui contrôlent la douleur, c'est-à-dire les endorphines, hein, et les récepteurs opiacés, donc chez le sujet normal. Après, on s'est intéressé à savoir si ces systèmes de récepteurs opiacés se modifiaient dans certaines pathologies chroniques ou lorsqu'on faisait des stimulations profondes. Et puis, un des domaines qui est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le champ de l'interaction sociale, de la neuropsychologie sociale, c'est ce qu'on traduit par le terme empathie, c'est qu'on s'est aperçu que lorsque vous regardiez quelqu'un souffrir, vous allumiez également votre matrice douleur. Donc, il y avait une espèce de résonance en termes d'imagerie dans ce processus de la douleur. Autre domaine évidemment très, très en pleine expansion, c'est l'imagerie de l'Alzheimer. Et ça, ça pose une vraie question. On est maintenant capable, avec des différentes techniques, de visualiser les dépôts d'amylose ou les anomalies, les taux de tauopathie, enfin les dégénérescences neurofibrillaires du début de la maladie d'Alzheimer. On est capable de faire des corrélations dans des populations entre l'étendue de cette fixation des anomalies et les résultats neuropsychologiques, les troubles de mémoire. Hein. Toute la question, c'est que le dépôt de ces plaques, les anomalies, précèdent de très longtemps la révélation pathologique. Donc évidemment, la question posée par ce type d'imagerie, c'est a-t-on le droit de faire du diagnostic 10 ans avant que ne débute une pathologie dont chacun connaît le caractère dramatique ? Donc, je terminerai pour le moment là-dessus. Ces progrès, vous en avez quelques exemples, on aurait pu en citer 100, 150 autres, montrent à quel point l'interaction entre les neurosciences et les neurologues, la neurologie clinique est une interaction fondamentale. Hein. La Société française de neurologie, c'est vraiment sa vocation, c'est de faire ce pont entre les cliniciens et les neurosciences. Ça nous pose évidemment des questions éthiques nouvelles. Hein. Une que je viens de citer, c'est le dépistage des maladies dégénératives, hein, à un stade très précoce, le dépistage génétique des maladies à révélation tardive, comme la chorée d'Huntington, par exemple, était évidemment une question tout à fait importante et dramatique. Les choix médico-économiques pour des traitements qui sont extrêmement onéreux posent évidemment des questions qui choisit-on, où investit-on l'argent, le myosine par exemple dans la maladie de Duchenne est un traitement extrêmement onéreux, la greffe hépatique dans la maladie de Wilson, etc., les stimulations cérébrales. Par exemple, dans la sclérose en plaques, que beaucoup ici connaissent très bien, le risque-bénéfice pour les nouveaux traitements qui sont en train d'émerger pose de vraies questions, non seulement financières, mais surtout éthiques, parce que ces médicaments plus efficaces sont également porteurs d'effets secondaires plus importants. Donc, on a vu, ma génération est une génération charnière, elle a vu vraiment dans la neurologie évoluer vers la prise en charge, vers la prise en compte des conséquences psychologiques, vers les équipes multidisciplinaires. Comme le disait Olivier Loncamp tout à l'heure, on accompagne les patients sur 30 ans. Il n'est pas question de se contenter d'un diagnostic, d'une coupe de cerveau. On est maintenant complètement impliqué dans cette démarche d'accompagnement et dans ses réflexions éthiques.
Bon, je reprends la parole donc pour reparler un petit peu d'expérimentation dans le domaine de la neurobiologie et ensuite pour essayer de donner quelques conclusions de notre réflexion. Alors, cette image est juste pour valider un petit peu les stratégies d'expérimentation utilisant les modèles animaux. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important que la communauté puisse faire passer des messages sur l'utilisation des modèles animaux. Et donc, ces modèles animaux, on a vu que dans le domaine de la psychiatrie, il n'y en avait pas et que c'était extrêmement difficile que d'avoir réellement des situations dans lesquelles on reproduisait les pathologies. Moi, je parle plutôt d'analogues expérimentaux de ces pathologies. Mais simplement, ce qui justifie de cette approche, c'est qu'en fait, l'organisation du cerveau des mammifères, eh bien, dans ses grandes lignes, est la même des animaux les moins évolués jusqu'à l'homme. Et ceci, bien sûr, nous permet d'aborder un certain nombre de problématiques chez ces petits animaux, parce qu'on ne peut pas le faire chez l'homme, notamment lorsqu'on recherche des mécanismes. Et s'agissant d'une deuxième stratégie, qui est celle d'utilisation d'animaux pour décrire et travailler sur des maladies, par exemple, dégénératives, utiliser la drosophile, une hématode ou encore le poisson zèbre, eh bien, ça peut paraître baroque, bien sûr, quand on n'est pas dans le domaine, mais simplement la justification, c'est qu'il y a une très forte conservation de l'expression du génome au fil de l'évolution et que l'on peut travailler sur des mécanismes, par exemple ceux de la mort cellulaire, eh bien, sont fondamentalement les mêmes, que l'on s'adresse à la pathologie dégénérative ou que l'on s'adresse donc à un certain nombre de modèles très élémentaires mais qui sont déjà d'une extraordinaire complexité. Donc l'ensemble de ces approches permettent des progrès dans la recherche des mécanismes des maladies et cette démarche, bien sûr, est principalement sous l'angle de la physiopathologie avec l'idée que l'on peut identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors, je vous donne juste une illustration de ce que l'on peut faire aujourd'hui. Voilà une image qui m'a été donc, confiée par Jean Livet de l'Institut de la Vision. Et donc, en faisant exprimer chez une souris trois protéines fluorescentes différentes, eh bien, on a la possibilité comme ça de pouvoir étudier la mise en place des neurones dans le cerveau de ces souris et également d'étudier la connectique, c'est-à-dire les connexions entre ces neurones par des techniques de fluorescence qui sont fortement élégantes et très résolutives, comme vous le voyez ici. Alors, le dernier point, s'agissant de la méthodologie de la recherche, c'est, au fond, il y a deux stratégies principales. La première stratégie, pour tous les gens qui sont ici et qui sont donc dans la discipline, c'est une stratégie qui part de la clinique, et on va attendre à rechercher les mécanismes et les causes de ces maladies. C'est ce que je résume de la façon suivante, comprendre pour guérir, c'est ce qu'on appelle la stratégie top-down. C'est une démarche de physiopathologie et donc qui, là aussi, elle nous apporte des résultats extrêmement importants et elle est au cœur de cette recherche translationnelle. Et puis la deuxième stratégie est complètement opposée. On va partir d'une analyse de l'organisation anatomique et fonctionnelle du cerveau pour en caractériser les principes, en imaginant que les principes du fonctionnement seront évidemment transposables phylogénétiquement dans les différentes espèces et jusqu'à l'homme, bien entendu. Alors, ceci nous permet notamment d'effectuer de nombreuses études de corrélation génotique-phénotype au niveau donc, des gènes, et cette démarche a l'avantage de s'accorder avec les différents niveau d'étude du système nerveux, niveau d'organisation moléculaire, cellulaire, le niveau des systèmes, etc. C'est une démarche qui emprunte beaucoup à la biologie du développement, notamment. Ça a déjà été dit ce matin. Alors, le dernier point que je voudrais mettre en avant, c'est celui selon lequel le cadre conceptuel de nos recherches évolue. J'ai choisi deux exemples, mais compte tenu du temps, je ne développerai que celui de la neuroplasticité. Ce cerveau est une matière qui est en perpétuelle réorganisation anatomique et fonctionnelle, non seulement pendant le développement. La phase de développement, là aussi, ce n'est pas souvent connu, dure en fait un quart de la vie, c'est-à-dire jusqu'à la 20e année à peu près. Le développement est majoritairement sous le contrôle des gènes et plus de 150 maladies sont liées à des troubles du développement. Alors, on aurait pu citer, si j'avais eu le temps, l'exemple de ce gène, FOXP2, qui fait le pont entre hérédité, évolution et langage. Alors, que ce cerveau soit plastique, eh bien, est illustré par un certain nombre de résultats de la neurobiologie fondamentale. Et par exemple, ici, vous avez des illustrations de modifications de l'organisation synaptique dans un délai très court, à l'échelle de la minute, dans une préparation, bien entendu, in vitro, c'est-à-dire sur une coupe de cerveau. Et donc, on peut visualiser rapidement les petits allongements et les rétractions de ces épines dendritiques en fonction de l'activité qui est induite, soit pharmacologiquement, soit par des stimulations électriques. Et nous savons aussi que certains facteurs endogènes, par exemple les estrogènes, sont capables de modifier ces épines dendritiques qui sont à la base, bien sûr, de cette connectique cérébrale. Enfin, la plasticité existe aussi chez l'adulte, qui montre chez ces patients dont vous avez tous entendu parler, qui ont eu les deux mains greffées, eh bien, la réorganisation des cartes corticales, c'est-à-dire qu'en stimulant par des techniques externes, et rassurez-vous, peu invasives, le cortex cérébral de ces patients qui ont été greffés, 10 mois, 17 mois ou 26 mois après la greffe, on voit une réorganisation des fonctions motrices, c'est-à-dire que finalement, en stimulant le cortex, au départ, on a une mobilisation, quand ça marche bien, de l'ensemble de la main, et progressivement, on peut mettre en jeu seulement le pouce, seulement l'index, seulement l'annulaire, etc. Et donc, c'est un travail d'une remarquable qualité qui montre bien les potentialités de notre cerveau, y compris à un âge avancé. Et enfin, la dernière illustration s'agissant de plasticité, c'est tout à l'heure, j'affirmais que le cerveau, c'était essentiellement post-mitotique. Eh bien, en fait, nous avons quelques résultats, une période relativement récente, qui nous amène à réviser ce dogme et qui montre que dans certaines régions très précises du cerveau, ici c'est chez la souris, eh bien, il y a des neurones qui sont générés en permanence et qui viennent remplacer d'autres neurones qui disparaissent. Ceci est particulièrement bien illustré dans cette image qui m'a été confiée par Pierre-Marie Lédo et Gilles Gueuzy de l'Institut Pasteur, où on voit, grâce à des techniques là aussi de transfection de gènes, on peut suivre la genèse de ces nouveaux neurones. Quelques perspectives pour terminer. J'ai choisi là aussi quatre axes de recherche. On aurait pu en trouver beaucoup d'autres. Le premier axe, c'est de réparer le cerveau. Je crois que c'est une ambition que nous avons tous en termes de thérapie cellulaire et de thérapie génique. L'ambition est de reconstruire le cerveau endommagé, remplacer des neurones. Est-ce que c'est une utopie ? Eh bien, aujourd'hui, grâce aux travaux notamment et aux connaissances sur les cellules souches, on peut imaginer qu'il y a derrière de véritables perspectives thérapeutiques, même si ce n'est pas pour tout de suite. Et on sait aujourd'hui faire exprimer durablement des gènes déficients par des neurones choisis. La deuxième axe, agir sur les symptômes des maladies. On l'a dit suffisamment ici ce matin. On n'a pas encore des solutions thérapeutiques pour l'ensemble de ces pathologies, mais on a une ambition, comprendre pour guérir les causes et les mécanismes de ces maladies neurologiques et psychiatriques. Et pour cela, il faut évidemment développer des recherches physiopathologiques multidisciplinaires, multidimensionnelles et translationnelles, avec l'idée d'aller vers une médecine qui est de plus en plus prédictive et de plus en plus personnalisée. Le troisième axe, agir sur l'évolution des maladies dégénératives. Si on ne sait pas les guérir, au moins est-on à même ou sera-t-on demain à même de les ralentir leur évolution ? Eh bien, ceci concerne principalement les grandes pathologies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, SLA. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans ce domaine ? Eh bien, le paradoxe là de l'opposition entre la recherche préclinique et la recherche clinique est assez frappant. En recherche préclinique, et notamment dans l'industrie pharmaceutique, on sait faire beaucoup de choses. Malheureusement, toutes ces tentatives transposées à l'homme se sont soldées pour le moment par des échecs. Et donc, il est évident qu'on espère tous que demain, cet obstacle sera levé et que nous pourrons avoir des résultats qui pourront être exploités dans ce domaine rapidement. Le dernier axe de recherche, c'est l'abord des bases de la conscience. La pensée ne peut se réduire en la matière, mais elle est l'émergence de l'activité. Tout le monde en est bien d'accord. Il y a des questions philosophiques quant à ces théories de la conscience et la théorie de l'esprit. L'idée est alors qu'il n'est pas vrai, qu'il est impossible de comprendre comment le sens est enraciné dans le biologique, nous dit Marc Genereau, mais le fait de savoir qu'il s'y trouve ne garantit pas qu'il nous soit accessible, en tout cas aujourd'hui. Alors, je termine pour rapidement. Les progrès thérapeutiques sont réels. Je crois que vous en avez eu quelques illustrations. Mais pour les malades, ils sont encore trop limités et beaucoup trop lents. Et quelquefois, ils sont inexistants. L'excellence des équipes n'est pas en question. Les résultats sont reconnus par la communauté internationale. La formation de nos jeunes chercheurs est excellente. Les laboratoires étrangers s'arrachent nos postdoctoraux. Une structuration permettant une meilleure visibilité de la recherche et en neurosciences est en cours. Un certain nombre de centres experts se dessinent autour des malades et des grands équipements notamment, mais ceci n'est sans doute pas suffisant encore à ce stade. Et enfin, donc, consciente des enjeux de son activité, la communauté est parfois empreinte d'un doute quant au soutien qu'elle peut attendre des institutions et des tutelles. On a vu le décalage qu'il y a entre le coût sociétal de ces pathologies et finalement la part qui est mise sur la recherche. Cette communauté sait aussi que les succès de demain, au bénéfice des patients, sont dépendants des moyens qu'on lui accorde. Là aussi, il suffit de voir ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Japon. Elle sait aussi, cette communauté, que pour rester compétitive, notre recherche a besoin d'un soutien s'inscrivant dans la durée. Elle constate avec regret que certains de ces jeunes les plus prometteurs font le choix de rester travailler à l'étranger, compte tenu des conditions qu'on leur offre. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, notre communauté demande qu'un effort sans précédent puisse lui permettre de répondre à ces enjeux sociétaux. Je vous remercie au nom de Bernard Laurent.
On souhaiterait, avec Étienne Hirsch, présenter 10 propositions qui ont pour but de contribuer au progrès dans la connaissance du cerveau et dans le soin apporté aux patients qui souffrent de ces maladies.
Trois premières propositions: renforcer la recherche fondamentale sur la connaissance du développement, du vieillissement et de la physiologie du cerveau. Sans une connaissance du fonctionnement de cet organe le plus noble dans notre organisme, nous ne pourrons pas comprendre les maladies. Deuxièmement, renforcer le caractère pluridisciplinaire de la recherche en neurosciences en promouvant notamment les interfaces avec la chimie, les nanotechnologies, les mathématiques et les sciences humaines et sociales. En restant dans notre cocon, nous ne progresserons pas.
Troisième priorité, créer des centres de recherche transnationnels entre la recherche fondamentale, la neurologie et la psychiatrie, bien entendu. Quatrième priorité, renforcer justement cette recherche en psychiatrie en favorisant la création de nouvelles équipes.
Cinquièmement, créer des centres de gestion, de stockage et d'analyse des données cliniques, d'imagerie et biologiques pour les maladies neurologiques et psychiatriques. Il faut que nous créions en France de vraies banques de données avec des moyens pour les faire tourner. Renforcer les moyens en personnel de soutien à la recherche clinique et de soutien aux laboratoires.
Point important encore sur lequel on a beaucoup disserté. Septième priorité, créer des postes mixtes, hôpital-recherche, au même titre qu'il existe des postes hospitalo-universitaires.
Promouvoir les interactions entre recherche académique et recherche finalisée, en particulier par une meilleure articulation avec la recherche pharmaceutique et les entreprises de biotechnologie. Ceci a fait l'objet d'une table ronde cet après-midi. Nous avons pu voir qu'il y a des progrès, mais tout n'est pas encore résolu. Accroître de façon organisée, institutionnellement, les interactions de la communauté des chercheurs avec celle du monde associatif représentant les patients et leurs familles. Et je souhaiterais remercier vraiment très sincèrement toutes les associations de malades qui ont participé à cette journée. Nous savons les espoirs qu'ils portent en nous et nous connaissons aussi donc les devoirs que nous avons.
Dernier point, obtenir une ligne de financement propre pour la recherche sur les maladies du système nerveux qui pourrait émaner d'une fondation dédiée. Et on y ajoutera, après ce que nos amis de l'European Brain Council nous ont dit au cours de cette journée, que, évidemment, et dans toute la mesure du possible, nous serons à leur côté pour cette année 2013, qui sera l'année des maladies du système nerveux, l'année du cerveau.
Priorité cerveau, c'était le titre de ce colloque. C'est aussi le titre de l'ouvrage qui répertorie le travail de nombreux chercheurs et cliniciens en faveur d'une recherche accrue dans les neurosciences. Priorité cerveau, des découvertes au traitement, est paru chez Odile Jacob en septembre 2010 sous la direction d'Olivier Lioncan et Étienne Hirsch. Poursuivez votre immersion sur ces questions en vous connectant au site www.priorité-cerveau.fr et retrouvez également prochainement sur notre site canalacademy.com notre émission en compagnie de Joël Bocquart et André Niolon sur ce thème de la recherche en neurosciences. Merci et à bientôt pour de prochaines retransmissions.